RCF.
La maison commune. Le magazine Nature et Environnement de RCF Isère. Avec Elisabeth De Beune.
Prendre en main son avenir énergétique et avoir la maîtrise de l'énergie que l'on consomme, c'est désormais possible dans la métropole grenobloise. Énergie citoyenne est une société locale de production fondée en septembre 2016 par des habitants désireux de participer activement à la transition écologique. Cette société s'est beaucoup développée en peu de temps avec des projets en lien surtout avec des collectivités. Pour nous en parler en détail, nous recevons aujourd'hui Fabienne Marez et Jean-Luc Petitclerc. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Fabienne Marez, vous êtes vice-présidente d'Énergie citoyenne. Vous êtes une des pionnières de cette initiative. Jean-Luc Petitclerc, vous êtes élu à la tronche, adjoint, avec entre autres délégations celle de l'Agenda 21. Vous nous parlerez de l'engagement d'une commune aux côtés d'Énergie citoyenne. Fabienne Marez, on va parler en détail, mais en deux mots, c'est quoi Énergie citoyenne ?
Donc Énergie citoyenne, c'est une entreprise et non pas une association, puisque beaucoup de personnes en fait se trompent et pensent que nous sommes une association car nous avons été créés par des habitants. Donc une entreprise créée par des habitants de la métropole en association avec des collectivités territoriales, donc un certain nombre de villes dont effectivement La Tronche, Grenoble, les Chirolles, les Bains, Saint-Égrève dès le départ, et puis la métropole bien sûr. Et l'idée, c'est de mettre notre épargne en commun pour devenir producteur d'énergie renouvelable sur notre territoire.
Donc à la fois des habitants, l'épargne d'habitants, de communes.
Exactement. L'épargne d'habitants, de communes, d'entreprises, d'associations, tous les acteurs en fait d'un territoire qui ensemble décident effectivement d'investir sur leur territoire.
Alors comment est née cette idée ?
Alors cette idée, elle trottait dans la tête de pas mal de gens, donc plus ou moins militants, écologistes déjà. Et au moment de la COP 21. Avec tout ce qui s'est passé à Grenoble à ce moment-là, le grand village des alternatives qui avait été organisé dans le jardin de ville par Alternative à Grenoble, eh bien, on s'est retrouvés tous ensemble en fait pendant cette manifestation, et c'est là qu'a pu en fait vraiment prendre forme cette volonté de créer une entreprise, d'y aller sur la métropole, alors que des entreprises du même genre existait déjà en France, existait déjà depuis très longtemps dans le nord de l'Europe, mais en France uniquement à l'échelle de village. D'accord, c'est ce qu'on appelait en fait les j'ai oublié le nom bien sûr, mais du coup à l'échelle d'une métropole ça n'existait pas encore, et l'idée c'était de se dire c'est à Grenoble qu'on doit se lancer en fait sur cette dimension là, voilà, et voilà. Ça l'était et ça l'est toujours, puisque effectivement, il a fallu. On avait quand même un environnement politique, on va dire favorable. Donc convaincre les collectivités territoriales n'a pas été difficile, surtout qu'on ne leur demande pas, on leur demandait pas de subventions. Hein. L'idée, c'était vraiment en fait l'épargne des communes aussi. Nous plaçons en fait de l'argent et cet argent revient au territoire. Créer en fait de l'activité économique, mais créer aussi de la valeur pour les gens qui ont placé cet argent. Voilà, maintenant la difficulté c'est de se faire connaître auprès des habitants, auprès de tous les acteurs du territoire pour faire grossir en fait ce projet. Et à chaque fois qu'on organise des soirées, qu'on va à la rencontre des habitants, donc commune après commune, les gens nous disent « Ah mais on ne savait pas que ça existait, on ne vous connaissait pas, etc. » Voilà, la difficulté maintenant c'est de se faire connaître en fait pour grossir.
Alors comment est-ce que ça marche concrètement ? C'est uniquement de l'énergie issue de sources renouvelables ?
Oui, tout à fait. Donc ce qui a été le plus facile au départ à démarrer, ce sont des installations de centrales photovoltaïques, donc c'est-à-dire des toitures solaires, d'accord, qui produisent de l'électricité. Et donc ce sont des projets qui ont un délai de développement court. Ça veut quand même dire un an, hein. Donc entre le moment, là nous sommes en train de travailler sur des toitures qui ne seront installées en fait qu'en 2020 par exemple.
Donc qu'est-ce qui se passe pendant un an ? C'est une recherche de fonds ?
Non, pendant un an ce sont en fait beaucoup de travaux de pré-études techniques Non, non, c'est vraiment en fait de la priorité technique et aussi beaucoup, beaucoup de travail administratif parce qu'on a beau, soi-disant, être prêt en France pour la transition énergétique, il y a un certain nombre d'étapes à franchir qui sont en fait très longues avec beaucoup d'intervenants. Voilà, c'est vraiment très réglementé. Et donc, il y a des étapes qui peuvent durer un mois, deux mois, trois mois. Voilà, des étapes administratives.
Une des premières communes qui a répondu OK pour se lancer dans un tel projet, c'est La Tronche, il me semble.
Oui, La Tronche faisait partie des cinq premières communes qui se sont lancées, avec donc deux toitures installées déjà, hein, puisque donc on a 12 toitures déjà installées sur la métropole, dont deux à La Tronche. La première église verte de l'Isère, et puis une autre toiture sur une école.
Alors, Jean-Luc Petitclerc, vous êtes adjoint à la municipalité de La Tronche. Comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre et cet engagement? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau politique de s'engager dans une telle entreprise?
Il y a une culture écologique à La Tronche qui se renouvelle beaucoup d'ailleurs avec la génération des 35-40 ans qui arrive. Il y a pas mal de mutations à La Tronche. La population varie beaucoup. Et cette culture écologique, elle est partagée par la municipalité, comme elle est partagée, je crois, par la métropole. Et du coup, c'est intéressant que les collectivités locales, j'allais dire, jouent le rôle de prophète. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut des gens au départ qui sont motivés, qui vont dans les projets. Et c'était vraiment l'esprit de La Tronche de pousser ce projet-là, sachant que on a fait une petite part. C'est pas La Tronche qui a mené le projet. C'est simplement qu'on a souhaité soutenir ce projet-là, aider à l'initier, sachant qu'il a déjà bien grossi depuis. Et c'était une ambition partagée. D'ailleurs, toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité sur ce qui concerne la participation de La Tronche à l'énergie citoyenne.
Décision de participer à cette. Le choix des toitures, comment est-ce qu'il s'est effectué?
C'est un partenariat qu'on a eu avec Énergie Citoyenne. Nous, on a proposé un certain nombre de toitures qui nous paraissaient jouables, dont d'ailleurs l'église Saint-Ferjus, donc en partenariat aussi avec le diocèse. Et puis, Énergie Citoyenne a fait son travail de sélection. Mais je vais peut-être laisser...
Alors, une sélection de toitures.
Oui, alors
comment est-ce que ça se passe?
Comment ça se passe? Eh bien, en fait, justement,
ce
soir, on a un atelier justement parce qu'on fait ça avec des habitants, les sélections de toitures. Donc, on travaille avec différents outils qui sont disponibles en fait sur Internet très facilement, et on observe la toiture et on prend des mesures. On prend des mesures effectivement d'ensoleillement, des mesures de superficie, des mesures d'orientation et des mesures d'inclinaison. Puisqu'effectivement, on va avoir une pente un peu trop forte ou un peu trop faible, eh bien, la toiture peut être éliminée. Une orientation en fait de toiture qui n'est pas correcte, la toiture peut être éliminée.
Il y a
beaucoup, beaucoup en fait de critères. Et tout au départ, on avait lancé un appel à toiture aux habitants de la métropole. On avait reçu une centaine de propositions. Et les 100 propositions que nous avions étudiées de toiture de particulier, donc au démarrage, on n'a pu en retenir qu'une seule. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, a priori, comme ça, qu'il faut, pour qu'une toiture soit rentable, hein, puisque nous, bien sûr, on investit notre épargne. Donc, inutile de vous dire qu'on fait en sorte, effectivement, que chacune de nos toitures soit rentable. Et donc, du coup, tous ces critères sont pris en compte pour assurer la rentabilité de chaque projet. Voilà. Alors ça, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'on est juste en train de regarder théoriquement ce que peut produire la toiture. Et ensuite, il y a encore une autre étape qui va être plus physique, c'est-à-dire que là, au niveau du bâtiment, bien sûr, poser des panneaux, ça veut dire ajouter du poids sur une structure, d'accord ?
Et donc, du coup,
c'est à peu près 18-20 kilos supplémentaires par mètre carré. Toutes les structures en fait de toiture ne peuvent pas supporter ce poids. Et donc là encore, une étape d'élimination va en fait réduire notre lot de toiture. Et c'est pour ça qu'au départ, ce lot de 12 toitures que nous avons installées, il venait d'une liste de 28 toitures. 28 toitures proposées par des collectivités territoriales et à la fin 12 uniquement. Qui ont pu être installés pour toutes ces raisons techniques que j'ai évoquées. Donc, c'est un travail, on va dire, de fourmi de passer de la théorie à la pratique. Voilà. Et donc, du coup, on a régulièrement des ateliers comme ça pour théoriquement étudier effectivement donc, ces points, comme je disais, d'orientation, d'inclinaison et de dimension, bien sûr, de la toiture. Et puis ensuite, la partie physique pour ces études de structure.
Oui. Une fois que les panneaux sont installés, qu'est-ce qui se passe ? L'électricité produite, elle va où ? Elle sert à quoi et à qui ?
Donc nous, on devient producteur. Donc Énergie Citoyenne est propriétaire de cette toiture photovoltaïque et revend l'électricité. Donc à la tronche, ben, on va le revendre à EDF sur Grenoble, à GEG. D'accord. Et donc et après, ces entreprises jouent leur rôle de distributeur et les revendent bien sûr à leurs clients, voilà, à leurs clients en fait qui sont là. Donc par exemple pour le bâtiment, donc l'église et l'école, eh ben il y a fort à parier que pendant la journée, quand ces deux bâtiments vont utiliser l'électricité, ils vont utiliser l'électricité qui vient juste d'être produite par leur toiture, réinjectée dans le réseau
donc directement
sur le point d'ingestion le plus proche. Ils sont le plus proche en fait de la production. Les électrons, ils vont pas aller en fait se promener jusqu'à Lyon ni même jusqu'à Grenoble. Ils vont être vraiment consommés sur place, quoi, dans un circuit très court. Donc on est vraiment dans le circuit court de l'électricité, même si effectivement pour l'église ou pour l'école, ça ne va rien changer au niveau de la facture, d'accord, hein, ils achètent toujours leur électricité au même fournisseur, d'accord, ils payent toujours leur électricité le même prix, mais là on a produit de l'électricité sur place.
Oui, voilà. C'est du local.
C'est de la production locale, en fait, c'est ce que je dis souvent, en fait, produire et consommer local, ça marche aussi pour l'énergie, c'est un de nos slogans, parce que c'est quelque chose que maintenant, je pense, les habitants, les Français ont intégré pour ce qui concerne l'alimentation, donc ça, hein, forcément, mais pas encore pour l'énergie.
Mais c'est plus compliqué, c'est vrai que les gens se posent moins la question, on allume la lumière, on se pose pas la question de d'où vient notre énergie et de comment est-ce qu'elle est gérée.
Parce qu'on ne le voit pas en France, effectivement, la production d'électricité étant complètement centralisée. Voilà, on n'a pas de centrale nucléaire sous nos fenêtres, en tout cas, bon, fort heureusement, j'allais dire, mais voilà, pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas de centrale nucléaire sous nos fenêtres. Donc, on ne se pose pas la question, en fait, de savoir d'où vient l'électricité. Et c'est une question intéressante. Voilà, parce que notre électricité à nous, eh bien, on peut dire que, donc, elle est locale, elle est produite localement, et alors, en plus, c'est une électricité qui crée de l'emploi, puisqu'on fait travailler des installateurs locaux, des bureaux d'études, voilà. Donc, c'est aussi une dimension très intéressante du projet. Enfin, pour ma part, en tant que mère de famille, je trouvais important de me dire qu'avec mon épargne, je pouvais aussi créer de la richesse et de l'emploi sur le territoire.
Alors, je vous propose une courte pause avec une reprise de Midnight Oil, Bed and Burning, et on se retrouve juste après.
Tick, tick, tick. Climate change is having a real impact on the lives of individuals and communities around the world. We must do something about it. In December in Copenhagen, our leaders will have an opportunity to come up with a robust post-climate agreement that is viable and will help make this planet a better place.
When our earth is turning, how do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning?
How can we dance? How can we dance?
How do we sleep while our beds are burning? The time has come to take a stand. For
RCF Isère, la maison commune, Elisabeth Debeune.
Le changement climatique a un impact réel sur la vie des personnes et des communautés. Nous devons faire quelque chose pour y remédier. C'est ce que dit Kofi Annan en introduction de ce morceau. Et nous devons trouver des solutions. C'est donc une reprise de Bed and Burying Midnight Oil. Nous sommes aujourd'hui avec Fabienne Marez et Jean-Luc Petitclerc pour parler ensemble de la société Énergie Citoyenne. Fabienne Marez, c'est vous qui avez choisi ce morceau. Quelle en est la raison ?
Eh bien, je trouvais que ça résonnait tellement avec ce qui nous arrive en ce moment. Ce morceau, quand même, nous parle de la maison qui brûle. Hein. Donc la terre, effectivement, le compte à rebours, on va dire, cette lutte contre le réchauffement climatique auquel nous devrions tous participer. Cette chanson, elle est sortie il y a quand même 10 ans. Elle parlait de 45 degrés, en fait, des températures de 45 degrés vers 2050. Eh bien voilà, la météo, en fait, de cette semaine m'a vraiment bien inspirée. Et de tous ensemble faire quelque chose, voilà, c'est vraiment l'idée de notre entreprise. C'est comment on peut tous ensemble travailler pour notre communauté, pour notre planète, mais pour notre communauté. La planète, elle va survivre, mais nous, êtres humains, et les animaux, les plantes, etc., voilà, comment allons-nous dépasser ce cap ? Voilà.
Au niveau de l'énergie, vous avez des nouveaux projets pour 2019. Vous n'êtes plus seulement sur les panneaux photovoltaïques.
Exactement, exactement, puisque l'objet social d'énergie citoyenne, c'est vraiment la production d'énergie renouvelable. Également, d'ailleurs, on parlera d'économie d'énergie certainement dès 2020. Hein. On va aussi s'atteler à cette dimension-là, parce que c'est aussi la plus importante. Hein. C'est quand même l'énergie qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Mmh. Et donc, cette année, on se lance donc sur des projets photovoltaïques toujours, mais de plus grande ampleur, donc des toitures beaucoup plus grandes, et sur de la chaleur bois locale. Donc là, il s'agit en fait dans deux communes de la métropole, Quai-en-Chartreuse et Sassenage, donc pour démarrer, d'installer des réseaux de chaleur bois qui viennent remplacer en fait des chaudières à gaz ou des radiateurs électriques pour certains bâtiments. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de se fournir en fuel ou d'utiliser l'électricité pour chauffer, parce qu'on sait en fait que voilà, là, on pollue vraiment quand on utilise du fuel et on n'est pas du tout efficace quand on utilise de l'électricité pour se chauffer. On passe donc à l'utilisation de granulés de bois.
Alors, le bois, il faut quand même aller le chercher.
Alors le bois, ben, il n'est pas très loin, donc c'est du bois local. Hein, donc ce sont à chaque fois des projets où on a des scieries qui sont à moins de 50 km en fait, de la commune en question. Et ce sont donc des déchets de scieries qui sont utilisés. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux voilà, d'économie circulaire. De toute façon, ces déchets de bois, ils existent. Et les scieries ont de plus en plus travaillé sur quelles sont les filières en fait, qui pourraient réutiliser ces déchets de bois. Ces déchets de bois, ils sont réutilisés justement pour du chauffage dans des chaudières à bois.
D'accord, voilà. C'est du bois recyclé finalement.
Voilà, ce sont les branches de bois, les arbres. En fait, on ne coupe pas des arbres pour faire des granulés de bois. Hein, d'accord. On va utiliser les déchets, tout ce qui ne va pas être utilisé en fait, pour fabriquer de belles planches. Donc le cœur du bois est utilisé, le cœur de l'arbre, on va dire, est utilisé pour vraiment la menuiserie, le travail en fait, avec du beau bois. Mais tout le reste, les branches, etc., là, ça va être en fait, émietté et utilisé pour des chaudières à bois.
En tant que citoyen, quand on entend parler d'énergie citoyenne, comment est-ce qu'on s'y prend pour devenir associé et quel est l'intérêt ?
Alors comment on s'y prend ? Bah, c'est très simple. Donc on va sur le site d'énergie citoyenne, donc énergie avec un Y, après un tiret et puis citoyenne au pluriel. Et là, on va trouver très facilement comment nous rejoindre. Donc il suffit en fait d'imprimer un bulletin de souscription et ensuite de choisir le nombre de parts que l'on veut investir. Hein, je rappelle que ce n'est pas un don, c'est vraiment de l'épargne en fait qui va être bloquée pendant 5 ans, mais qui va ensuite qu'on va pouvoir récupérer à partir
une
de là.
Une part correspond à quoi ?
À 100 euros. Donc une part, c'est 100 euros. Et donc on a une petite campagne sur l'adoption de panneaux, le parrainage de panneaux en fait panneaux solaires. Donc 5 parts, avec 5 parts, on peut déposer son nom sur la toiture de son choix. Donc en ce moment, il nous reste 277 panneaux à adopter sur la belle électrique, par exemple. Il y a énormément de gens qui nous contactent en fait pour ça, puisqu'on a lancé en fait une levée de fonds. Donc avec ce bulletin de souscription, on va choisir effectivement le nombre de parts qu'on veut souscrire. On peut choisir aussi sur quelle commune on veut souscrire. Et puis ensuite, il suffit de faire un virement, un chèque, tout est précisé sur le bulletin. À partir de là, on devient donc associé. Et ça veut dire qu'en fait, on a la satisfaction de se dire que notre épargne qu'on a bougé peut-être d'un livret dont on ne sait pas vraiment à quoi en fait il servait, qui est investi sur des projets qu'on va pouvoir visualiser, hein, parce que là, on va pouvoir pour le coup voir où est notre épargne. Et puis, on va à terme être rétribué de ce choix d'investissement avec en fait un retour sur investissement qui ne dépassera pas 3%, mais qui sera entre 1 et 3% en fait de retour par an. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est pas non plus un investissement spéculatif. D'accord.
Jean-Luc Petitclerc, à titre personnel, vous êtes associé? Vous avez engagé des parts?
Oui, on a rejoint dès qu'on a pu les premiers associés, notamment sur les pour parrainer entre guillemets un panneau solaire. Sur la commune de La Tronche.
Alors lequel? L'école, l'église?
Non, c'était sur la commune. J'ai pas mémoire qu'on sélectionnait le bâtiment lui-même. D'accord, ou alors je ne m'en souviens plus. Mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant quand même, c'est très symbolique le parrainage. Ce qui est intéressant, c'est quand même rejoindre cette énergie citoyenne et rejoindre le groupe. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est à la fois de l'économique et du citoyen. C'est pas que du citoyen. Il y a une dimension économique qui participe effectivement à l'économie du pays. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, c'est un vrai investissement. J'en attends pas un retour, mais c'est un investissement au vrai sens du terme. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé dans ce projet-là. Et puis, bon, il y a une certaine cohérence aussi. Quand on est citoyen, qu'on est élu, qu'on fait partie de la métro, qu'on a un certain nombre de convictions, il y a une certaine logique à participer à sa mesure, parce que je ne suis pas un gros actionnaire d'Énergie citoyenne, à ce genre de projet.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Énergie citoyenne est une société qui a la particularité d'être à statut coopératif. Donc, une personne, une voix. Donc, quel que soit le nombre de parts que vous achetez dans la société, en fait, vous avez votre mot à dire au même titre que le vice-président à la transition énergétique de la métropole. La métropole ayant bien sûr acheté beaucoup plus d'actions que moi. Nous avons en fait, chacun une voix. On est aussi dans une gouvernance citoyenne, une gouvernance partagée. Hein. On veut aussi en fait se dire que on prend notre destin énergétique en main et on le prend ensemble et pas selon la taille de notre portefeuille, mais vraiment du fait que nous soyons là, investis en tant que personne.
Du coup, vous vous réunissez régulièrement pour prendre des décisions? C'est des décisions qui collégialement?
Tout à fait. On est organisé par collège et on a un conseil de gestion, l'équivalent d'un conseil d'administration, où on a des représentants de chacun des collèges, donc les communes, les citoyens, les hébergeurs, etc. Et donc on a une assemblée générale annuelle qui a eu lieu en fait justement au mois de juin. Là, il y a une semaine. Donc les associés qui le souhaitent peuvent devenir bénévoles. Moi-même, par exemple, je suis bénévole. Pour l'instant, nous n'avons pas d'employés. Cette société est encore jeune. Elle n'a pas encore les moyens de créer de salariés.
Vous faisiez des appels à d'autres engagements, finalement, d'avoir un temps, une heure, une semaine.
Tout à fait. On a des gens, en fait, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et puis, en plus, ce temps-là, ils ne peuvent le dédier que, peut-être depuis chez eux, uniquement le soir, très tard.
Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces gens?
Eh bien, on a des gens qui nous écrivent des articles, par exemple, pour nos lettres d'information, pour notre site Internet, des gens qui gèrent en fait notre boîte aux lettres, boîte mail, puisqu'on est de plus en plus sollicité. On a des gens qui travaillent sur le modèle économique, de nouvelles toitures arrivent, de nouvelles opportunités se présentent à nous, puisqu'on a des entreprises maintenant qui nous contactent en fait pour nous proposer leur toiture. On a aussi des bâtiments qui ne sont pas encore sortis de terre, mais on nous contacte en fait pour nous proposer une toiture qui va venir d'ici 2021. Donc tout ça en fait, c'est de nouvelles choses à étudier. Voilà, ça peut s'étudier de la maison, voilà. Mmh. Et sinon, effectivement, notre groupe de travail technique, lui, se réunit en fait assez régulièrement en physique. Moi, par exemple, qui travaille sur la communication et l'animation, on travaille beaucoup en conférence téléphonique entre midi et deux depuis nos lieux de travail respectifs. Voilà, une demi-heure en fait tous les 15 jours. Voilà. Donc c'est à taille variable, à géométrie variable.
La géométrie variable, donc. Mmh. Selon ses talents, on peut trouver de quoi faire à Énergie Citoyenne.
Et même en parler à ses amis, c'est déjà le talent que tout le monde peut avoir. Mmh. Et donc, voilà, se dire que, voilà, faire savoir que ce projet existe, puisque, voilà, aujourd'hui, c'est quand même notre problématique. On a un territoire qui est très vaste. Nous en sommes à 170 associés. Donc, notre objectif, c'est d'être au moins 200 d'ici la fin 2019.
Mmh. Et 170 en 3 ans, parce que vous avez commencé il y a à peine 3 ans.
Oui, 170, en fait, on a commencé à recruter, oui,
ça,
voilà, en 3 ans.
C'est quand même pas mal.
Bah, pour la taille, pour une métropole de notre dimension, c'est peu. Mais en même temps, c'est difficile dans une métropole de toucher les gens, parce qu'on voit que d'autres projets existent sur notre territoire, hein, sur l'Isère. Donc Grésy 21 dans le Grésy-Vaudan a démarré en même temps que nous. Et il y a beaucoup plus d'associés. Mais là, on
c'est
est
un
à
peu
la,
le
à
même système.
C'est le même système, exactement. Mais là, on est à l'échelle de village. Mmh. Et donc, on voit vraiment la différence entre la manière dont les gens se regroupent, se retrouvent, se connaissent dans un village et dans une métropole. On a peut-être des villes plus petites dans cette métropole où on pourrait retrouver en fait cette même cohésion, voilà. Mais chez nous, ce serait plus au niveau peut-être d'un quartier, et encore même pas évident.
Au niveau d'une radio avec les auditeurs de RCF. Parce que,
c'est voilà. Une idée.
Tout à fait, tout à
Merci
fait.
Merci aux auditeurs de relayer.
Merci aux auditeurs en fait d'aller sur notre site, voilà, et de se dire, bah, c'est peut-être le moment effectivement de passer à l'action. Nous, ce qu'on aimerait, c'est entraîner. Les citoyens peuvent entraîner tout notre territoire, peuvent entraîner des élus, peuvent entraîner les entreprises, peuvent entraîner. Voilà, on pense que c'est un cercle vertueux que nous pouvons en fait mettre en place en s'engageant en nombre dans un tel projet.
Fabienne Marez et Jean-Luc Petitclerc, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler d'énergie citoyenne, nous partager aussi vos convictions, vos engagements. Peut-être que d'autres, justement à votre écoute, auront envie aussi d'agir d'une façon ou d'une autre pour cette transition énergétique. Je rappelle le site d'énergie citoyenne, énergie donc avec un Y-6 citoyenne avec un S.org. C'était notre dernière émission de la Maison Commune avant l'été. Nous nous retrouverons tout début septembre et d'ici là, portez-vous bien et bon été.
The heat is on. stand is for the earth, is for our land. The time has come, a fact's a fact. The heat is on, no turning back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning?
I support the campaign for climate justice, and I am pleased to become a climate ally. This is your campaign.